Je vais aller chez les flics.
Mais qu'est-ce qui te prend? T'es complètement malade ou quoi?
J'en peux plus de cette vie de merde.
Et toi, du jour au lendemain, tu décides de te barrer, mais t'as quoi dans la tête?
J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça.
Maintenant, les vrais indiens.
Eh bien, nous, on fera les cow-boys ce soir dans le rendez-vous édition spéciale cinéma français à New York, la manifestation organisée par Unifrance. En direct sur France Culture, il sera question de César, d'armée, de cavale, de couleurs bleu, vert, jaune, rouge et même de smoothies. Avec deux réalisateurs invités à présenter leur cinéma aux États-Unis, Cédric Kahn pour La vie sauvage, quelques jours avant sa sortie en DVD, La cavale d'un père et de ses deux fils, pour un cinéma d'apprentissage filmé au bord du documentaire En lumière naturelle, Benoît Lagan.
Et avec Vie sauvage, excellent film marqué par le jeu parfait de Mathieu Kassovitz, Cédric Kahn va démontrer à New York que le cinéma français sait aussi filmer les grands espaces, la cavale, les fugitifs et les Indiens.
Thomas Caillé pour Les combattants, 3 Césars 2015 pour ce premier film chapitré en 4 couleurs qui suit les aventures d'un jeune couple à la recherche de la fin du monde. Manu Farine.
Entre comédie romantique, buddy movie et voyage initiatique ou comment tenir un cinéma du déplacement.
Et je ne l'ai pas oublié, à mi-parcours à 19h30, ce sera la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme, Jean-Marc.
Les mémoires d'Helmut Berger.
Parfait. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre avec le son du jour, un journal exceptionnel aujourd'hui.
Laura, at this stage, I can offer nothing more than my word. I am a senior government employee in the intelligence community. I hope you understand that contacting you is extremely high risk.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour.
C'est un son du jour planant, c'est un extrait de la bande-annonce du film Citizen Four, documentaire assez extraordinaire de la journaliste et réalisatrice américaine Laura Poitras. C'est cette documentariste que le jeune Edward Snowden, 29 ans, contacte en 2013. Il travaille alors pour la NSA, les renseignements américains. Il a découvert que le gouvernement espionne massivement ses concitoyens ainsi que les étrangers. Et il choisit donc Laura Poitras, qui a déjà réalisé deux documentaires sur l'Amérique post-11 septembre, pour révéler ses documents.
Et nous lui consacrons donc ce dossier du jour. Laura Poitras est à Paris pour la sortie du film qu'elle a tiré cette affaire, Citizen Four, récompensé la semaine dernière par l'Oscar du meilleur documentaire. Il sort ce mercredi en salle et vous l'avez rencontré.
Effectivement, alors c'est un film assez incroyable ce Citizen Four, puisque quand elle reçoit des emails de cet homme qui à l'époque signe de manière anonyme Citizen Four, Laura Poitras va donc le rencontrer. C'est lui qui fixe le rendez-vous à Hong Kong dans une chambre d'hôtel. Elle emmène avec elle le journaliste d'investigation Glenn Greenwald et pendant une semaine, elle va filmer en huis clos tout ce qui se passe entre eux trois, au moment même donc où Glenn Greenwald va sortir toutes les informations que Snowden détient et où Snowden devient un peu l'homme le plus recherché du monde. Donc c'est un film complètement exceptionnel, c'est à la fois un documentaire sur la surveillance de masse, mais aussi un film d'espionnage puisque le but c'est de tout sortir avant que le gouvernement américain ne les retrouve, et un making-of du journalisme. J'ai donc demandé à Laura Poitras pourquoi, alors que ce sujet est tout de suite devenu une actualité brûlante, elle a choisi d'en faire un documentaire.
It was actually when I was receiving his emails, they were all...
En fait, c'est quand j'ai commencé à recevoir ces emails, ils étaient tous assez effrayants et très significatifs. Je me suis retrouvée dans cette situation dramatique où je parlais à quelqu'un qui risquait sa vie et qui m'expliquait pourquoi il était prêt à le faire. Tout de suite, il m'a parlé du système de surveillance de la NSA et m'a dit qu'il avait des documents. Donc j'ai gardé les emails en me disant que je devais en faire quelque chose, mais je ne savais pas ce que j'en ferais. Comme tous les artistes, je suis mon instinct. Je savais que j'étais sur une bonne piste, mais je ne savais pas où ça me mènerait. C'est en arrivant à Hong Kong que j'ai compris que ça deviendrait un film. Avant Hong Kong, j'étais une journaliste qui devait à tout prix protéger sa source. Et une fois que je suis arrivée, je me suis dit « Ok, je suis documentariste, donc je ne vais pas construire l'information, mais documenter la façon dont on la construit. » Donc j'ai essayé de rester concentrée, de ne pas trop penser à ce que cela pourrait donner sur grand écran, parce qu'il y avait d'autres paramètres à gérer dans l'urgence. On avait peur que l'hôtel soit sur écoute, qu'on essaie de nous empêcher de faire notre travail. Donc je tournais et je cryptais les images. Je faisais ce que j'avais à faire avant tout.
Car en effet, on le voit dans le film, les protagonistes sont complètement paranoïaques.
Oui, et complètement à raison, puisque le gouvernement américain peut à tout moment prendre le contrôle des téléphones, des caméras qui sont dans la chambre d'hôtel. Toutes les personnes qui sont là, en fait, sont sous très haute surveillance, puisqu'à partir d'un certain moment donné, on sait très bien que Glenn Greenwald est en contact avec ce lanceur d'alerte. J'ai donc demandé à Laura quelles précautions elle a été obligée de prendre jusqu'à la sortie du film pour que ces images voient le jour.
So I traveled alone. I was doing my own camera and sound, and partly because
déjà je voyageais seul. Je faisais moi-même le son et l'image parce que je voulais que personne d'autre ne prenne de risques. J'encryptais les images, je les envoyais à des avocats pour les sécuriser. Pendant ce temps-là, Glenn sortait les informations. C'était un peu comme être dans l'œil du cyclone. C'était très calme pendant des heures, et au fur et à mesure, les médias sont arrivés. La télé n'a plus parlé que de cela et très doucement, le monde extérieur s'est refermé sur nous. Mes deux producteurs m'ont beaucoup soutenue quand je suis rentrée de Hong Kong avec tous ces rushs. Ils m'ont dit « on y croit, on prend le risque ». On savait que le gouvernement américain ne nous lâcherait pas. Ce qui aurait été horrible, c'est que tous mes amis me tournent le dos. C'est le contraire qui s'est passé. Mais on est très très prudent. En salle de montage, on devait s'assurer que rien n'était connecté à Internet. Dès qu'on travaillait, on mettait nos portables au frigo, puisqu'on a appris par le film que les téléphones portables peuvent devenir des micros. Donc beaucoup de cryptage, beaucoup de mots de passe très longs. Et parfois, on emportait même les rushs avec nous en partant.
Alors c'est ça qui est particulier dans ce film. En plus, par ailleurs, c'est que Laura est l'un des protagonistes de l'histoire qu'elle filme, hein, évidemment. On entend beaucoup son nom, mais elle n'apparaît jamais à l'écran. La caméra est en fait complètement rivée sur Edward Snowden. On le voit seul dans sa chambre d'hôtel, se laver, manger, regarder la télévision où il y a son visage absolument partout, partir en toute hâte avec des sacs plastiques. Laura Poitras, en fait, a dit qu'elle avait filmé quelque chose de très rare, c'est-à-dire la vie d'un homme au moment où elle bascule.
Les circonstances étaient extraordinaires. I mean, both the risk he was taking, I mean,
c'était quand même des circonstances extraordinaires à cause du risque qu'Edward Snowden prenait. À un moment donné, il a atteint le point de non-retour. Il a mis sa vie en jeu parce qu'il pensait que le public devait connaître ses informations. J'ai essayé de filmer ce moment avec le plus de patience possible en laissant vivre les silences, les moments d'absence. Je voulais aussi que l'on comprenne les conséquences pour lui, le sacrifice qu'il faisait, et on le voit au moment où il écrit à sa petite amie, Lindsay Mills. À ce moment-là, on comprend que cette décision de s'exposer et de tout livrer aux journalistes va causer de grandes souffrances à quelqu'un qu'il aime plus que tout.
Voilà, parce qu'en fait, c'est ça qui surprend dans le film, c'est l'intimité très grande qu'on a avec ce personnage que nous, on a tous découvert par les médias. Et alors, lui, il a toujours dit qu'il voulait absolument éviter de se mettre en scène pour ne pas que ça détourne l'attention des informations qu'il révélait. Laura Poitras m'a expliqué qu'il avait été extrêmement difficile, en fait, de le convaincre de la laisser tourner ce documentaire.
As you say, he was very concerned that he didn't want to become a distraction.
En effet, il avait très peur que l'attention se focalise sur lui et distrait le public des informations qu'il révélait. Mais il avait aussi décidé de ne pas cacher son identité. Il savait que les gens auraient envie de savoir qui il était et il tenait à expliquer ses motivations et je savais tout cela avant d'arriver à Hong Kong. Donc je lui ai dit, je veux te filmer. Tout de suite, il m'a répondu « Non, ce n'est pas moi le centre de cette histoire. » Je lui ai dit « Mais tu sais, les gens vont tout vouloir savoir de toi et tu es le seul à pouvoir répondre. » Donc je l'ai convaincu de laisser emporter ma caméra. Et une fois qu'il a accepté, il m'a laissé la liberté totale de filmer. Glenn aussi savait que j'aurais ma caméra. D'une certaine manière, cela décuplait les risques pour nous parce qu'on était encore plus vulnérables, mais cela décuplait aussi notre capacité à toucher les gens, à leur expliquer la portée de ce qui s'était passé là-bas. Dans ce sens, je considère que c'est un document extrêmement important. C'est un documentaire sur le journalisme, sur les coulisses du journalisme. On lit l'information dans les journaux, mais là, on peut enfin savoir ce qu'il se passe quand un journaliste rencontre sa source.
Puisqu'effectivement, l'essentiel du film consiste à montrer les échanges entre Snowden et Glenn Greenwald. Toutes les questions qui se posent, comment révéler les informations, quand, à quel moment il faut révéler l'identité d'Edward Snowden. J'ai donc demandé à Laura Poitras, qu'est-ce qu'elle avait appris en termes journalistiques, elle qui est une journaliste déjà très expérimentée.
Il y a tellement de leçons à tirer de cette affaire. Vous savez, en tant que journaliste, la première chose qu'on vous apprend, c'est de protéger vos sources. Là, Snowden a dit « Je préfère sortir de l'ombre avant qu'on me retrouve », ce qui va totalement à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc on est démunis. Que se passe-t-il quand on inverse le modèle? Eh bien, on a tous décidé de prendre énormément de risques. Et je pense que si on avait été plus timoré, qu'on avait suivi les règles, je crois que ça aurait eu beaucoup moins d'impact.
Ce qu'il faut dire qu'avant cette affaire, Laura Poitras, qui avait d'abord travaillé sur Guantanamo, était déjà dans le collimateur des autorités américaines.
Oui, et alors depuis l'affaire Snowden, elle a lancé avec Glenn Greenwald The Intercept, un site qui est destiné à exploiter tous les documents de leurs nombreuses sources, puisqu'il y en a de plus en plus. Je lui ai demandé si elle était prête à retravailler aux États-Unis, maintenant qu'il faut le dire, elle a quand même gagné un Oscar.
So I'd been detained at the US border for many, many years.
Pendant des années, à chaque fois que je voyageais aux États-Unis, j'étais systématiquement retenue à l'aéroport pendant des heures. Après l'affaire Snowden, Glenn et moi avons reçu plusieurs prix de journalisme. Et ensuite, il y a eu les Oscars et on s'est servi de ces occasions prestigieuses pour revenir aux États-Unis. Mais bon, un jour, j'espère que j'aurai l'occasion de voir mon dossier. Je suis très curieuse de savoir ce que le gouvernement recueille comme information sur moi au moment où on parle, par exemple. Je suis certaine que je suis encore sous surveillance électronique. Mais on m'arrête plus à la frontière, ce qui est plutôt cool. En revanche, est-ce que je peux travailler aux États-Unis? Je ne peux pas répondre à cette question. Le gouvernement américain cible les lanceurs d'alerte et les journalistes dans des proportions jamais atteintes jusque-là. C'est pour ça que j'habite à Berlin. Je travaille en ce moment à New York, mais si la situation empire, je devrais partir. Dans tous les cas, je ne les laisserai pas m'intimider ou m'empêcher de faire ce que je dois faire.
Voilà, puis je rappelle que le musée d'art américain Whitney à New York a proposé à Laura Poitras de monter une installation vidéo toujours sur le thème de la surveillance de masse, mais là-dessus avec un aspect un peu plus artistique. C'est pour ça qu'elle est à New York en ce moment.
Merci Zoé. C'est peut-être des réactions de la part de deux cinéastes ici présents, Cédric Kahn et Thomas Caillé.
En tout cas, ça me donne très envie de voir le film. Et puis je trouve que c'est un pari assez dingue de réussir ce huis clos qui est donc porté sur les épaules d'une source qui divulgue plein d'informations. Enfin, je sais pas, ça me donne vraiment envie de voir un petit peu dans quel état était le personnage, quoi. Il y a un vertige là quand même.
Cédric Kahn, de votre côté.
Très curieux, mais c'est vrai que c'est un autre travail que le cinéma. Enfin, c'est...
Elle fait un vrai film de cinéma.
C'est un vrai film de cinéma. Hein,
c'est vraiment
autant.
Très cool.
Oui, mais la démarche, elle est obligée de s'adapter au fur et à mesure de ce qui se passe. Quoi.
Merci Zoé, on se retrouve demain pour la suite de ce journal de la culture. On reprendra le schéma traditionnel.
Avec plaisir, et n'oubliez pas que vous pouvez écouter et podcaster ce journal. Vous découvrirez une version un peu plus longue de cette interview sur le site et du journal de la culture dès demain.
Merci.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Cédric Kahn et Thomas Caillé, avant de parler de vos films respectifs, on vous a réunis aujourd'hui juste avant votre départ pour la 20e édition des rendez-vous With French Cinema in New York, une manifestation organisée par Unifrance et l'institution qui défend et qui promeut le cinéma français dans le monde. 20e édition, cette fois, elle est parrainée par Martin Scorsese et Nathalie Baye. L'occasion d'abord de savoir si vos films ont une audience aux États-Unis. Cédric Kahn, est-ce que vous êtes un peu distribué lors de ce long parcours que vous avez maintenant?
Oui, pas tout le temps. Des fois oui, des fois non. Celui qui a le mieux marché, c'est Feu Rouge, l'adaptation de Simenon, qui a même bien marché. Mais je pense que la notoriété de Simenon comme écrivain y a fait.
Et quand vous dites qu'il a bien marché, ça se chiffre en combien à peu près?
$1 million. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Et bon, à vous, qu'est-ce que ça vous dit?
Je crois que pour un film américain, c'est vraiment...
Rien.
Peanuts, mais pour un film français, c'est bien.
Vous, Thomas Caillé, Les Combattants, c'est votre premier film. 3 Césars, est-ce que ça ouvre le marché américain? Est-ce qu'il y a déjà eu des gens intéressés?
Le marché américain, en fait, était déjà ouvert depuis un moment. Juste après Cannes, en fait, on avait des contacts. Et là, c'est un distributeur qui s'appelle Strand qui distribuera le film aux États-Unis. Mais je ne connais pas la taille de la sortie. Je pense que c'est quand même... C'est relatif.
Et la sortie, par exemple, pour Feu Rouge, c'était à peu près combien de salles ou de copies?
Dans mon souvenir, ça commence à remonter 23, je crois.
Qu'est-ce que vous attendez d'une telle manifestation organisée par Unifrance chaque année? Je sais que vous y êtes déjà allé, Cédric Kahn. Comment ça se passe? Quel est le rôle qu'un réalisateur français a là-bas, à cette occasion?
C'est pas comme d'aller tout seul présenter un film ou une sortie. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cadre où il y a une représentation globale du cinéma français. Donc voilà, c'est aussi une vitrine, en fait. Une vitrine de ce que, à ce moment-là, la production française... Donc, il y a un public new-yorkais américain pour le cinéma français, qui est un public de cinéphiles. Et voilà, c'est le fait d'être nombreux qui crée l'événement.
Relayé par les médias, par exemple, américains?
Oui, mais c'est des médias, voilà, ça serait l'équivalent des Un Rock, du Monde ou de Libé ici. C'est-à-dire que c'est pas. Ça reste une manifestation qui s'adresse à des cinéphiles.
Et dans le milieu du cinéma, est-ce que vous avez, quand vous y étiez, rencontré justement des professionnels, des distributeurs, des producteurs?
Oui, effectivement. C'est-à-dire l'industrie new-yorkaise, hein, qui est plutôt indépendante, mais voilà. Mais bon, il y a plusieurs manifestations à New York. Il y a aussi Tribeca, qui est parrainé par De Niro. Il y a New Film, New Directors, qui est un très bon festival pour les premiers et deuxièmes films. Moi, j'ai pas fait que ces rendez-vous-là. Il y a pas mal de manifestations. Donc, tout au long de l'année, il y a quand même des films français qui sont présentés.
Vous, Thomas Caillé, qu'est-ce que vous attendez d'une telle manifestation?
Voir déjà les réactions de la salle, je trouve ça toujours intéressant quand on est à l'étranger, quoi, de voir un petit peu comment la salle réagit au film. Là, en plus, nous on a la chance que le film soit aussi un peu une comédie, donc on entend vraiment comment ça résonne, quoi, comment ça sonne, et la musique est très différente. Voilà, la musique de la salle est très différente dans un pays à l'autre. Voilà, et puis alors, je viens d'apprendre qu'il y avait Martin Scorsese, donc j'espère qu'on pourra le rencontrer. Voilà.
Et Nathalie Baye aussi. Enfin, vous pouvez la rencontrer aussi en France. Benoît Lagane.
Oui, Cédric Kahn, vous avez fait tourner donc Guillaume Canet dans le précédent film, cette fois-ci Mathieu Kassovitz. Tous les deux ont des expériences américaines, ils ont tourné là-bas. Vous avez échangé avec eux sur leur expérience américaine, et est-ce que ça vous titille, vous aussi?
C'est pas du tout le même genre d'expérience, parce que je crois que Mathieu Kassovitz, il a vraiment fait des films de studio à Hollywood, et je crois que ça a été assez dur, c'est parce que quand on est mal habitué en France, le réalisateur est très, très bien traité, très protégé, quoi. Donc le choc du réel, je crois, quand on arrive à Hollywood, c'est pas simple. Enfin, ça il me l'a un peu raconté. Alors que Guillaume Canet, il a fait un film à New York produit par la France.
Et puis il a joué avec Jerry Strasberg aussi, par ailleurs.
Voilà, mais donc ça c'est une expérience d'acteur, donc c'est encore, je sais pas si c'est comparable aux expériences de metteur en scène, mais donc je crois que son film américain, voilà, il était produit vraiment à la française.
Et vous, tourner un film aux États-Unis ou en coproduction, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce qu'il y a déjà eu des projets de ce type-là?
Oui, mais pas pour aller tourner un film aux États-Unis. Ouais, après Feu Rouge, en fait, on m'a envoyé quelques projets, il y avait un agent et tout ça. Alors déjà, j'ai pas un anglais extraordinaire, donc je me suis pas précipité. Et j'aimerais pas me retrouver dans un film de studio. Enfin, je pense que je serais pas du tout à mon aise. Sur un film indépendant, ouais, pourquoi pas.
Qu'est-ce qu'on vous avait proposé?
Ce qui est inspirant, c'est l'espace, c'est des acteurs, enfin, tout ça, de se déplacer. Mais en fait, globalement, j'aimerais bien me déplacer. Pas forcément aux États-Unis, l'idée d'aller tourner à l'étranger. Mais pour moi, il faut absolument que ce soit motivé par l'histoire et par l'envie de l'histoire. Enfin, je ne peux pas juste être motivé par le fait d'aller faire un film aux États-Unis.
Qu'est-ce qu'on vous avait proposé comme sujet?
Bonne question. Je ne m'en souviens absolument pas.
Un film de super-héros?
Non,
je plaisante. Gros cliché. Et vous, Thomas Caillé, d'aller tourner ailleurs qu'en France, enfin, c'est le premier film que vous avez fait. Il faut dire que c'est un film aussi de déplacement, mais est-ce que ça vous intéresserait?
Pour l'instant, c'est pas trop à l'ordre du jour. J'ai reçu un scénario auquel j'ai rien compris, mais c'est peut-être à cause de mon anglais, avec plein de terroristes partout qui sautaient des immeubles et tout. Mais je crois que non, c'est pas pour moi. Après, je pense que c'est vraiment la même réponse que Cédric. C'est-à-dire, ça dépend vraiment de l'histoire et de la jeunesse de ce projet-là, quoi. C'est vrai qu'après, il y a des visages et des corps incroyables aux États-Unis. Il y a quand même des acteurs dingues et des paysages aussi complètement fous, quoi. Donc
comme acteur, vous pensez à qui l'un et l'autre? Quand vous pensez à des corps ou à des acteurs?
Je sais pas, Michael Shannon, Jessica Chastain, à qui on pourrait penser?
Joaquin Phoenix.
Oh, d'accord, cette génération-là.
Le rendez-vous.
Plateau César avec vous, Thomas Caillé, scénariste, réalisateur, premier film Les Combattants, toujours en salle et qui sort aujourd'hui en DVD sous le label France TV Distribution. Un premier long métrage couvert de prix, il y avait eu la quinzaine des réalisateurs à Cannes et pas moins de 3 Césars. Meilleur premier film, meilleure actrice pour Adèle Haenel et meilleur espoir masculin pour Kevin Azaïs. C'est l'histoire de Madeleine et Arnaud que tout semble opposé. Lui est un jeune garçon un peu flottant qui vient de perdre son père et qui envisage la suite dans l'entreprise familiale. Et puis elle, un bloc d'énergie, de muscles et de pessimisme puisqu'elle se prépare à la fin imminente et certaine de l'humanité, bande annonce.
Oh ! Je veux m'inscrire.
Qu'est-ce qui est fou avec mes tuiles, celle-là ? C'est bizarre comment tu nages.
C'est rien de bizarre, c'est une nage de combat.
Une quoi ?
Une nage de combat, laisse tomber.
Bah putain, si c'est ça les meufs cet été, merci et vive la France, hein. Petite bière?
Comment tu fais ça?
Je me fais mal.
Moi je reste pas en France, je me dis pas ici, c'est mort.
J'ai pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare, hein. Mais bon, on le voit pas arriver.
Je comprends rien. Qu'est-ce qu'on voit pas arriver?
La fin.
La fin de quoi?
Il faut faire une prépa pour rentrer dans l'armée.
Ça dépend du régiment que tu veux, en fait. Moi celui que je veux, c'est un des plus durs, donc ils prennent pas n'importe qui. Tu manges pas ton flambé? On fait quoi?
On reste à l'affût.
Sur nos gardes.
Thomas Caillé, vous parliez à l'instant des paysages américains et le point de départ de votre film, c'est un séjour dans la région de votre enfance, dans les Landes, près du lac de Locarno. Qu'est-ce qui, dans ces paysages, a pu déclencher comme élément narratif pour ce film, en fait? Qu'est-ce que...
C'est aussi une période de ma vie, c'est que j'avais 10 ans quand je les ai découverts, ces paysages, et je crois que c'est une période qui est, où on fantasme beaucoup, où on rêve beaucoup, et du coup il y avait quelque chose d'un peu fabuleux dans ces territoires pour moi. Voilà. Après les Landes de Gascogne plus précisément, c'est des paysages très plats, très linéaires, qui donnent une espèce d'impression d'éternité, on a l'impression que ça ne changera jamais, et pourtant c'est des paysages très fragiles qui sont régulièrement secoués par des tempêtes, par des incendies l'été, et l'histoire c'est devenu progressivement ça, c'est-à-dire Arnaud c'est la forêt, c'est le bois, d'ailleurs il travaille dans le bois, il a ses racines dans ce territoire-là, et Madeleine c'est l'incendie qui va ravager le terrain, tout le pays, et en même temps qui va apporter de la couleur à un territoire qui en manquait peut-être. Donc il y avait ce truc-là de permanence et de catastrophe.
Même Farine.
J'ai lu Thomas Caillet que vous aviez à un moment donné comme mis à plat le scénario avec des espèces de petits post-it sur un tableau de Liège, hein, des petits post-it de couleurs. Qu'est-ce que ça vous permettait ? Qu'est-ce que ça dit du film lui-même, hein, de sa construction ?
Je crois qu'on est assez nombreux à travailler comme ça, c'est-à-dire en servant de post-it ou de fiches de scènes. En fait, j'ai commencé le film par ça, c'est-à-dire par poser des scènes dont j'avais envie. Je savais pas encore exactement ce que ces scènes-là me racontaient. Et puis après, on nourrit avec d'autres choses. Parfois, sur une fiche, ça peut être juste un élément de dialogue, ou alors c'est des photos de trucs qu'on chope sur Internet et qui, à ce moment-là, m'intéresse. Et puis, au fur et à mesure, une histoire se construit. On creuse dedans, on essaie de trouver le cœur de cette histoire-là. Mais après, le tableau de Liège, il aide surtout à la structure, quoi. Il aide surtout à essayer de comprendre le film qu'on est en train de faire, à essayer de trouver la forme du film. En l'occurrence, là, ce que ça a permis, c'est d'identifier trois parties, clairement, dans le film, trois univers différents, le monde d'Arnaud, celui de Madeleine, et le monde qu'ils essaient de construire pour eux-mêmes. Parce que le film raconte ça, c'est des personnages qui sont déçus par le monde et qui décident de réinventer un monde pour eux.
Vous travaillez de la même façon, puisqu'il disait que Thomas Caillet disait à l'instant, c'était avec Cannes qu'il travaillait avec le tableau de Liège, un peu comme tout le monde. C'est pareil pour vous, dans la construction ?
Non, j'ai pas de tableau de Liège.
Non, on peut se passer du tableau de Liège. C'est un élément déterminant.
Je travaillais sur mes premiers films, je travaillais plus comme ça, effectivement, de partir d'envie, comme ça, d'avoir une approche un peu plus impressionniste. Et puis après, finalement, on commence à être plus dans la méthode ou la technicité des choses. Et je pense que c'est pas une bonne chose, en fait. J'aimerais revenir à une démarche plus comme ça.
Oui, Thomas Caillet ?
Non.
Je crois que vous alliez rien dire, en fait, parce qu'il venait d'être dit.
Non, mais pour ceux qui n'ont pas de tableau de Liège chez eux, on peut le faire aussi sur des tableurs Excel. Moi, je le sais sur des tableurs Excel. Voilà.
Bonne indication de méthode. Manu Farine.
Alors, le film est vraiment construit comme un trajet, hein, comme un itinéraire. On passe donc d'une ville balnéaire au stage de survie dans l'armée qu'ils vont faire donc tous les deux, puis à la nature. Pourquoi fallait-il absolument filmer de façon chronologique, hein ?
En fait, c'est une liberté qu'on s'est donnée pour le jeu, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que moi, ma conviction au début du casting, c'était de se dire, on a deux personnages qui sont très différents, une fille qui est très sûre d'elle, qui a beaucoup de force, beaucoup de puissance, et un garçon qui, comme vous l'avez dit, est très flottant. Et j'ai envie de trouver une actrice qui a une expérience, qui peut être sûre d'elle sur un plateau de tournage, et peut-être un garçon qui est plus un débutant. Et quand on choisit, c'est ce qu'on a fait, on a choisi du coup Adèle Haenel et Kevin Azaïs qui avaient beaucoup moins d'expérience qu'elle, et on s'est dit qu'en les mettant dans cette situation, dans la situation des personnages, et en tournant dans la chronologie, ce qui allait se passer, c'est que lui rattraperait cette expérience-là pendant tout le long du film, qu'on le verrait grandir pendant le film, ce qui est le but du film. Le film est raconté et la plupart du temps dans son point de vue, et ce qu'on voit, c'est un jeune homme qui grandit au contact de quelqu'un et qui s'aguerrit, quoi.
Cédric Kahn, vous avez déjà travaillé sur ce mode-là, de façon chronologique ?
Moi, je suis très convaincu. Ouais, la chronologie, c'est un confort qu'on ne peut pas toujours s'offrir. Ouais. C'est l'idéal, de toute façon, parce que le film, les acteurs montent, enfin, tout progresse avec le film. Des fois, techniquement, c'est compliqué, parce que si on a des décors lourds et tout ça. Donc,
bah on l'a payé très cher, quoi. On l'a payé très cher en termes de temps, quoi, parce qu'on avait 86 décors pour une centaine de scènes. Donc, on a passé notre temps à voyager, c'était assez galère.
Et bizarrement, plus le film est léger économiquement, plus c'est facile que le dispositif soit au service du film. Parce que moi, par contre, je suis absolument convaincu de ce qu'il dit, c'est que plus le dispositif et la manière de faire le film est en correspondance avec ce que raconte le film, plus finalement le film, cette cohérence-là va naturellement s'inscrire dans le film. Plus on tord les choses, plus la technique et l'économie finalement interviennent dans la fabrication du film, plus finalement le film est contraint et moins il est cohérent.
Il y avait juste aussi un truc que je trouve intéressant, c'est l'idée de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un choix le jour 8 du tournage, ça aura une incidence sur le jour 9. Du coup, il y a une espèce de truc comme ça où on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut pas, par exemple, se couvrir en se disant on va prévoir plusieurs options de scène parce qu'on n'est pas sûr de l'humeur du personnage. Parce que si on fait ça, le lendemain, on n'en aura pas trop à tourner, mais ça sera exponentiel. On en aura 9 et le lendemain, ça sera 80. Et du coup, voilà, il y a un truc où on doit trouver le fil.
Alors de façon chronologique toujours, vous avez associé à chaque partie du film des couleurs et même fait des repérages en fonction de ces couleurs. C'est bleu au début pour le personnage d'Arnaud, vert dans le monde de Madeleine, jaune pour le stage de survie dans l'armée et rouge pour le final dans la nature. Qu'est-ce que vous avez demandé à votre frère, qui est aussi votre chef opérateur ?
Alors, ce qui est super avec David, c'est qu'il me refuse pas grand-chose.
C'est votre frère.
Voilà. Donc, il a travaillé beaucoup en amont du film. On travaillait quasiment 6 mois en amont du film. On a fait tous les repérages ensemble. Il avait lu toutes les versions du scénario. Et en fait, on a déduit cette variation chromatique quoi à partir du scénario. On était justement devant ce tableau de Liège. Et quand on collait tout ce qu'on aimait, des représentations de peinture, des photogrammes de films, plein de choses en dessous de la frise du film. Et au bout d'un moment, ce qui est apparu, c'est ça. C'est que le début était bleu, il y avait beaucoup de bleu. Il y avait le bleu de la piscine de Madeleine, du ciel, du lac, les gros plans et les yeux bleus des acteurs, etc. La boîte de nuit qui est très bleue, puis le vert ensuite, et après le jaune et vers l'orange. Et ce qu'on s'est aperçu que, voilà, que le film nous racontait ça, c'est-à-dire que ces deux personnages, à mesure qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, l'univers autour d'eux se réchauffait, quoi, qu'il y avait quelque chose qui gagnait en chaleur dans le rapprochement de ces deux personnages. Du coup, on a essayé de travailler ça, de se dire qu'au fur et à mesure, en fait, le jaune allait rentrer dans l'image, donc bleu plus jaune, ça donne vert, et finalement le jaune gagne jusqu'à même cramer le... Enfin, littéralement, c'est ce qui se passe à la fin, cramer le territoire.
Voilà. Manu.
Justement, comme votre frère Thomas Caillé, donc qui est également votre chef-op, vous avez changé de parcours en cours de
David.
Route. Hein.
Ah oui. Mon frère, c'est David.
Oui.
Ah oui.
Oui, oui. Non, je disais Thomas parce que vous êtes Thomas.
C'est vrai.
Mais en fait, quoi ?
On porte le même nom, c'est vrai.
Ah ben oui.
C'est ça qui est fou.
Donc lui, prof de physique, et puis donc il est passé à Lumière, je crois.
Oui, c'est ça, Louis Lumière.
Ouais. Vous, Sciences Po, il y a un début dans la production de films. Vous, donc, vous êtes passé par la FEMIS, vous choisissez la section scénario. Pour quelle raison ? Pourquoi vers le scénario dans un premier temps ?
Parce que je n'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire réaliser des films, en fait. En fait, le seul truc, j'avais vu quelques making-of de films américains et j'avais l'impression que c'était très très compliqué. Pour moi, c'était plutôt un métier d'ingénieur. Il fallait se savoir se servir d'animatronique, de piston hydraulique, de savoir faire fonctionner les caméras. Je ne comprenais rien du tout. Et je me suis dit, en revanche, l'écriture, c'est simple, quoi. Enfin, y a un clavier d'ordinateur, on tape, on écrit son histoire. Et du coup, j'y suis allé plus naturellement vers ça. Et c'est à la FEMIS, en fait, que j'ai découvert le métier de réalisateur, puisqu'on fait des films et puis on regarde les autres les faire. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque part le prolongement du travail sur le scénario et que l'idée, c'était pas de maîtriser des choses complexes, mais au contraire, de tenir des principes très simples qui permettent de dialoguer avec des métiers complexes.
Benoît Lagan ?
Oui, Cédric Kahn.
Et d'ailleurs, quasiment tous les réalisateurs qui sortent de la FEMIS sortent de la section scénario. C'est un paradoxe, mais les étudiants qui sont en section réalisateur ont beaucoup plus de mal à faire leur premier film.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé, Thomas Caillé, de nous apporter un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi. Enfin, c'est plus complexe, il y a deux sons. Expliquez-nous, Thomas Caillé, le choix de votre
premier,
choix.
Le premier, c'est le hurlement des tripodes de la Guerre des Mondes de Steven Spielberg. C'est une sorte de corne de brume, un peu comme un bateau qui arrive dans un port. Et, je sais pas, je trouve le son assez... je le trouve magnifique, parce qu'il y a quelque chose d'à la fois organique et métallique. Enfin, il y a un truc comme ça, je trouve, qui est assez juste par rapport à ce que sont les bestioles dans le film. Et c'est très flippant. Et le deuxième, c'est un autre son flippant, qui est le son de la tronçonneuse, de Massacre à la tronçonneuse. et qui est pas qu'un son en fait, qui est aussi presque la musique du film en fait. Enfin, je crois que pour la petite anecdote, Toby Hooper n'avait pas suffisamment d'argent dans le budget de son film pour se payer une BO, et du coup la tronçonneuse sert un peu de BO au film quoi. Et il y a un truc qui est très entêtant avec la tronçonneuse, qui devient presque aussi un personnage. D'ailleurs, il y a un travelling, le premier travelling vers la tronçonneuse dans le film, et un moment assez magique où on a vraiment l'apparition du héros du film en fait.
Manu ?
Oui, c'est juste que vous citez Spielberg aussi comme étant une possible référence dans le film Les Combattants. À quel niveau est-ce que c'est dans la façon de filmer la forêt, peut-être ?
Alors, ouais, ça fera plaisir à David. Souvent, en tout cas, quand on doit filmer la forêt de nuit, je lui dis « Ah ouais, le début d'E.T. c'est super ». Il me dit « Non, alors tu oublies tout de suite, ça n'est pas possible. » Parce qu'en fait, pour que la lumière soit magnifique comme ça, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Et ça coûte très cher. Mais non, Spielberg, c'est plus une référence en termes d'émotion qui provoque chez moi. Il y a quelque chose de très candide, en fait, chez Spielberg. D'innocent, d'enfantin, d'hyper premier degré. Et c'est un truc que... Enfin voilà, qui m'embarque à chaque fois dans ces films, enfin dans ces films les plus réussis en tout cas. Et c'est quelque chose que j'avais en tout cas envie de. J'avais envie qu'on ait cette impression là dans le film, que le récit d'initiation soit pas programmé, qu'on sache jamais vers où les personnages vont aller, qu'ils le découvrent comme une grande histoire, comme une grande aventure. Voilà.
Le rendez-vous. Rendez-vous. La chronique.
Thomas Caillé et Cédric Kahn, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique du mercredi de Jean-Marc Lalanne, avec ce soir un livre et un héros.
Voilà, Helmut Berger, qui sort ses mémoires chez Séguier. En fait, il les avait écrites à la fin des années 90. Elles avaient été publiées en Allemagne, mais n'avaient pas à l'époque trouvé de preneur dans les maisons d'édition françaises. Et suite au Saint-Laurent de Bonello, Helmut Berger étant à nouveau dans l'actualité, le livre est enfin édité en France, augmenté d'un chapitre supplémentaire dans lequel Helmut Berger raconte les 15 dernières années de sa vie et revient essentiellement sur sa présence dans le Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Alors, le livre est vraiment extrêmement rigolo, très très plaisant, a beaucoup de charme. Il bénéficie de la carrière de jet-setter absolument hallucinante d'Helmut Berger. C'est vraiment quelqu'un qui, pendant 20 ans, a croisé les plus grands, que ce soit Maria Callas, Mick Jagger, les Beatles. Il a vraiment connu absolument tout le monde. Et cette séduction du livre, qui le rend vraiment très, un peu affriolant, en même temps, elle est un peu à double détente, parce qu'il y a un côté un peu selfie. C'est-à-dire qu'il écrit comme on fait des selfies, c'est-à-dire que même ce qu'il a à raconter n'est pas super intéressant, ce qui compte c'est qu'il soit à côté d'une personne plus célèbre que lui sur l'image, et donc ce côté un peu très très mondain, c'est la limite du livre. Et en même temps, il y a quelque chose d'assez émouvant dans le côté super midinette qui continue à être halluciné du parcours qu'il a parcouru, des gens célèbres qu'il a rencontrés. Alors par moments, le livre devient beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, touche à des zones d'intimité plus grandes, notamment lorsqu'il parle de l'enfance, puisque Helmut Berger est né en 1945 en Allemagne, de parents qui étaient des petits commerçants, plutôt pauvres, mais qui ont fait fortune. Et grosso modo, il y avait quelque chose d'un peu clivé entre d'un côté une mère qu'il adorait, qui le vénérait, qui le considérait un petit peu comme la huitième merveille du monde, et de l'autre côté, un père qui le méprisait, qui le battait, qui ne supportait pas ce fils qui voulait devenir artiste, qui était extrêmement paresseux, et qui le voyait comme un bohémien. Et Berger explique que sa bipolarité, qui le constitue vraiment, entre des moments de totale mégalomanie et des moments de doute absolu, de dépression, des gouffres en lui-même, est issu de ce clivage entre une mère qu'il adorait et un père qu'il méprisait. Et dans les pages, les très très forte du livre, il y a aussi évidemment
Luchino Visconti.
Voilà, sa passion avec Luchino Visconti, avec qui il va vivre pendant 10 ans, et leur relation va couvrir un petit peu tout le spectre de ce que peut être la relation entre deux personnes. C'est-à-dire à la fois c'est son amant, c'est aussi son professeur, son Pygmalion, son employeur, c'est quelqu'un qui lui apprend tout, qui lui apprend l'art, qui lui apprend les langues étrangères. Et ce qui est très beau entre eux, c'est que chacun est tourmenté, est complètement tenaillé par la peur de perdre l'autre. C'est-à-dire que Visconti est terrorisé parce que Berger sort tous les soirs, se détruit dans les clubs, est toxicomane, et Berger, qui a remplacé Alain Delon dans le cinéma de Visconti, peut-être même dans sa vie, et tourmenté par l'idée d'être à son tour remplacé. Il y a des plages très très drôles parce que Alain Delon et sa némésis, c'est-à-dire qu'il est obsédé par l'idée qu'Alain Delon puisse reprendre sa place. Il raconte des choses très très drôles où Alain Delon passe vraiment pour un séducteur très très calculateur, très cynique, et relance sans arrêt Visconti. Donc c'est assez amusant de ce point de vue-là. Mais moi, ce que je trouve complètement dingue dans le livre, c'est que Helmut Berger n'a absolument aucune rigueur dans la restitution de ce qu'il a vécu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun goût pour la véracité historique. C'est-à-dire qu'il raconte n'importe quoi.
Ce qui est tout le contraire de vous, qui est un fou des dates et qui savait absolument tout.
Pour un geek comme moi, qui est obsédé par la vérité historique, c'est complètement affolant parce qu'il mélange les dates de tournage. Donc on a sans arrêt envie de tout remettre dans l'ordre, quoi. Mais il y a un truc vraiment dingue, c'est qu'il raconte qu'en 1985, il a tourné dans un film qui s'appelle Nom de code Emerald, réalisé par David Lynch avec Carole Bouquet. Donc là, on sursaute un petit peu, pardon. Et alors, évidemment, David Lynch n'a absolument pas tourné un film qui s'appelle Nom de code Emerald. Donc, on va voir ce que c'est ce truc. Et effectivement, Helmut Berger a fait un film qui s'appelle comme ça, qui est un film de série Z, d'espionnage, mais qui est réalisé par Jonathan Sunger, donc inconnu au bataillon, et qui n'est même pas avec Carole Bouquet, mais avec Cyrielle Clare. Donc là, tout à coup, moi j'ai vraiment exulté et j'ai dit chapeau. Parce qu'il y a un degré, disons, de mythomanie flamboyante, une manière d'assumer le fait qu'il peut tout se permettre, qu'il a toutes les audaces et que voilà, il n'y a vraiment aucun tabou à avoir avec la vérité, que je trouve assez impressionnante.
C'est Eric Kahn, oui.
Ça met le doute sur tous les gens connus qu'il a rencontrés dans son livre.
Moi, il n'a jamais croisé Mara Callas.
Et il n'a jamais tourné dans les damnés. C'est autre chose. Un porno soft italien.
Le rendez-vous.
Plateau Vie Meilleure avec vous, Cédric Kahn, cinéaste multi-récompensé depuis 1993 avec votre premier film Barre des Rails, prix Jean Vigo en 1994 avec Trop de Bonheur, prix Louis Deluc en 1998 avec L'Ennui et Vie Sauvage, votre dernier long métrage sort en DVD dans une semaine, l'occasion de revenir sur ce film adapté d'un fait divers. L'histoire, c'est celle de Philippe Fournier, alias Paco, un marginal très proche de la nature. Il est joué par Mathieu Kassovitz, excellent dans le film, qui après sa séparation avec la mère de ses deux fils, décide de ne pas les ramener. Il va vivre avec eux, caché pendant 11 ans, en cavale de caravane en communauté, afin de leur apprendre une vie hors système, une vie sauvage. Bande annonce.
Je vais aller chez les flics.
Mais qu'est-ce qui te prend? T'es complètement malade ou quoi?
J'en peux plus de cette vie de merde.
Mais c'est nous qui l'avons voulu cette vie, d'accord? C'est nous qui avons voulu
supporter,
ah ouais non?
Mais qu'est-ce qu'on a voulu? On avait 7 et 8 ans. Dis-moi ce qu'on choisit quand on a 7 et 8 ans, hein?
Je reviens dans une demi-heure.
Merde. On part pour combien de temps?
Toujours.
Ça n'est rien que ça! Vous êtes mes enfants! Vous êtes mes fils, venez! Je suis votre père!
On n'a plus rien, les enfants. Juste les amis, le ciel, la providence. Maintenant, on est les Indiens.
Tout marche en rond dans la nature.
Vous voyez quelque chose de carré ici? Parce que tout est rond, tout est fluide. C'est l'homme blanc qui a inventé le carré.
Nora, j'apprends ce jour que j'ai été condamné à 2 ans de prison et déchu de tous mes droits parentaux. Et tu dois savoir que ça ne change rien. Les conditions pour refaire surface, que toutes les poursuites contre moi et contre eux soient interrompues. Dans le cas inverse, nous resterons cachés jusqu'à la majorité des enfants. Paco.
Cédric Kahn, quand on vous avait reçu pour Une vie meilleure, vous nous aviez dit qu'il fonctionnait, que le film fonctionnait à l'inverse du cinéma de l'American Dream. Est-ce que pour Vie sauvage, il y avait aussi des codes de cinéma que vous vouliez rejouer ou déjouer?
Ouais, je suis convaincu que les Américains auraient fait le film du point de vue de la mer, par exemple. Ça aurait été vraiment le schéma hollywoodien, quoi, le « jamais sans mes fils ». La mère, enfin voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a même réduit le rôle de Céline Sallette au montage, parce que ça convoquait l'émotion tellement facilement, l'empathie tellement facilement, que c'était difficile après de retourner sur le père et les fils.
Benoît.
Laurent, c'était Une vie meilleure. Vous aviez écrit le film sur des rapports non filiaux entre un homme et un enfant. Là, avec Vie sauvage, vous travaillez sur le lien filial direct, mais sur le mode du fait divers et de la cavale. Est-ce qu'on peut regarder Vie sauvage comme le prolongement d'Une vie meilleure? Parce qu'il était aussi question de cavale dans le film précédent.
Et de paternité. Mmh. J'ai toujours du mal, moi, à faire des liens entre mes films, mais il y en a forcément, du fait que je les ai faits, quoi. Oui, de même qu'il y a aussi la disparition de la mère, les retrouvailles avec la mère à la fin, etc., etc. Mais c'est très différent en même temps, parce que là, effectivement, c'est un père qui peut pas se passer de ses fils, il y a une... il y a une bascule dans l'illégalité, il y a aussi un choix de vie idéologique. Moi, j'ai eu l'impression de faire un film assez différent.
Tout à l'heure, dans la bande-annonce, on vient d'entendre les enfants. Je sais que vous avez du mal à parler de la direction d'acteur. Je vous cite, la direction d'acteur, c'est tout. C'est comment on se dit bonjour le matin, le costume que l'on convient de porter. Mais comment on fait quand on doit diriger des enfants qui n'ont pas forcément d'expérience au cinéma?
Bah ça, c'est super. C'est l'expérience ultime pour moi. C'est-à-dire qu'un enfant, contrairement à un acteur... D'ailleurs, dans le fond, je pense qu'il faudrait diriger les acteurs professionnels de la même manière que les enfants. Mais disons que des fois, avec les acteurs, on est plus littéral. C'est-à-dire on dit je veux du rouge ou du bleu, et ils vont faire rouge ou bleu. Avec les enfants, il faut toujours une forme de stratégie. Enfin, en tout cas, la chose n'est pas donnée. En tout cas, il faut trouver le dispositif et effectivement la relation qui va leur permettre d'aller vers le film, vers la fiction.
Donc là, il y a des directions d'acteurs avec les enfants pour vous?
Mais c'est au-delà de la direction d'acteur, c'est-à-dire que c'est de la relation. Je ne comprends pas le mot direction d'acteur. Évidemment, il y a forcément la direction d'acteur, mais je ne comprends pas le fait de diriger. Je pense qu'il y a le choix, il y a l'amour, il y a l'affection ou la non-affection. Enfin voilà, il y a ce mélange aussi dans la relation qu'on a avec l'acteur, la relation qu'on a avec le personnage. Souvent, moi, je me suis rendu compte que j'étais en conflit avec des acteurs où j'étais pas toujours très à l'aise avec leur personnage. Enfin, et puis on fait aussi avec ce qu'on est soi, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas froid face à l'acteur et face à l'histoire qu'on raconte. On est aussi, il y a des choses de soi qu'on découvre dans une histoire. Souvent, je me suis aussi rendu compte que quand ça se passait mal avec un acteur, j'allais réduire le rôle au montage et que finalement ça révélait quelque chose de la vérité du film que j'étais en train de faire. Le scénario, finalement, c'est le film qu'on croit qu'on veut faire, et le tournage, c'est le film qu'on est réellement en train de faire.
La direction d'acteur, pour vous, Thomas Caillet, pour ce premier film, ça veut dire quelque chose?
Je suis hyper d'accord avec l'idée que ça dépasse la question de ce qu'on dit à un acteur juste avant la prise, et je crois qu'il y a beaucoup une dimension d'apprivoisement réciproque. Je me souviens qu'on a... Enfin, Adèle et Kevin, par exemple, je les ai vus séparément pendant plusieurs mois, régulièrement, une fois par semaine. On parlait. Parfois, j'avais un texte à leur donner, à faire lire. Parfois, j'avais rien du tout. Je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses à ces moments-là, qui étaient des moments très, tout sauf officiel, tout sauf de la mise en scène. En fait, c'était effectivement le début d'une relation, quoi, surtout.
Benoît Lagan.
Alors, vous avez été plusieurs fois acteur, Cédric, en fait trois fois, notamment depuis 2012, deux fois avec Elie Wajsman dans Alia et dans Tirer la langue, Mademoiselle, d'Axel Roper. Et vous avez dit que ça vous avait fait changer, en particulier sur la notion de déplacement sur un plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça a changé dans votre façon ensuite de travailler avec les acteurs?
Non, ça ne m'a pas fait changer, mais ce que je trouvais formidable, moi, je n'ai jamais pensé que je jouerais. Enfin, c'est vraiment une chose qui est arrivée de façon impromptue. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, et je pense que c'est applicable dans n'importe quelle vie, c'est de se déplacer dans un périmètre qu'on connaît, en fait. C'est-à-dire, c'est presque la théorie du point de vue, quoi. C'est-à-dire, tout à coup, je me suis retrouvé à cette place-là, et sur un plateau de cinéma, qui est un endroit que je connaissais quand même assez bien, et j'ai tout vu différemment, en fait. J'ai vu une équipe de face, j'ai vu des techniciens, j'ai attendu avec des gens à l'arrière du plateau, alors que souvent, j'ai même pas le temps de voir les gens quand je réalise le film. J'ai vu une équipe, en fait. Alors que en gros, l'équipe est toujours derrière moi quand je réalise, elle était en face. Bon, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant, voilà. Sur le fait de se déplacer, je me dis, finalement, dans sa vie, tout le monde devrait essayer de se déplacer. Enfin, je trouve ça très enrichissant. Après, j'ai pas le sentiment que ça m'ait fait vraiment changer dans ma façon de diriger les acteurs, parce que, une fois de plus, je pense que c'est pas théorique, c'est très instinctif. C'est-à-dire que, moi, vraiment, fondamentalement, je pense que je dirige les acteurs avec ce que je suis, c'est-à-dire avec mes qualités et mes défauts, et que j'ai beaucoup de mal à dépasser ça. Et que, voilà, c'est cette chose-là qui s'inscrit, et qu'effectivement, beaucoup de choses se jouent avant le tournage. Ça, j'en suis absolument convaincu.
Alors, il y a quelque chose de très particulier dans la façon dont vous avez filmé Vie Sauvage, c'est que vous avez tourné dans la nature avec très peu de moyens, juste des caméras et sans lumière artificielle. Pour une recherche documentaire, pour approcher ce cinéma-là?
Non, parce que cette démarche documentaire, je l'ai toujours eue. Ouais. Roberto Succo, c'était au plus près des faits, alors que là, j'ai pris beaucoup de liberté avec les faits, l'écriture, tout ça. Non, c'était pas du tout le documentaire, c'est-à-dire... Non. Le documentaire, c'est le documentaire. À partir du moment où on écrit et qu'il y a des acteurs, c'est plus du documentaire, c'est de la fiction. Mais disons, le fait de chercher l'incarnation et la vérité de ce que je filme, ça, c'est une démarche de toujours, même quand j'ai eu plus de matériel et plus de lumière. Non, après...
Sans lumière artificielle, pourquoi?
D'ailleurs, j'étais sensible à ce que disait Thomas tout à l'heure sur le fait de tourner dans l'ordre. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je cherche vraiment qu'il y ait une cohérence entre ce que je raconte et la façon dont je le raconte, en fait. Pour moi, c'est très important. C'est même pas intellectuel, c'est vraiment... C'est artisanal, en fait. C'est que tout à coup, ça me paraît... pour moi, on peut pas... On ne peut pas raconter des problèmes de gens qui n'ont pas d'argent et dormir dans un 5 étoiles le soir. C'est-à-dire qu'il faut un tout petit peu... Donc voilà, donc là, on était dans les Cévennes, on raconte l'histoire de gens qui ont fait un choix de vie radical, hors système, qui vivent de très peu de choses et tout ça. Il y avait beaucoup de petits rôles et de figurations qui étaient joués par des gens qui vivent réellement comme ça. Et il fallait absolument que les comédiens ressemblent à ces gens-là. Donc on a dépouillé petit à petit. Donc pas question de maquiller les acteurs... Pas question de les nourrir, non, ça je plaisante. Pas question de... Et finalement, ça aurait paru très bizarre. Le film était à 90% en extérieur. Ça aurait été très bizarre de rajouter de la lumière. Et on est parti aussi avec de la machinerie, mais qu'on a très vite abandonné. Et donc, ce que j'appelle le tournage bio, on a tourné finalement juste avec les caméras. Deux caméras quand même. Donc c'était quand même une lourdeur technique. Faut pas... Et en fait, finalement, ça change toute la conception du cinéma, parce qu'au lieu de se placer et puis de mettre la lumière, on se plaçait par rapport à la lumière. Mais voilà, on était dans la nature, donc on pouvait vraiment tourner à 360 degrés en permanence. Ce système-là n'est pas applicable à tous les films.
Ça permet aussi de profiter de lumière exceptionnelle, quoi, à certains moments. Là, sur Vie Sauvage, je trouve qu'elle est spectaculaire, la lumière. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens en termes d'image que ça fait une image cheap. Elle est vraiment très spectaculaire, ouais. Très impressionnante.
Oui, parce qu'on s'est autorisé à un luxe qu'on s'autorise rarement dans le cinéma, c'est aussi de poser les caméras au bord de la route et d'attendre. C'est-à-dire que le temps, il y a une telle pression sur le temps dans le cinéma. Donc finalement, cette légèreté logistique permet finalement de retrouver du confort ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait plein de moments où l'équipe était à l'arrêt pendant deux heures, où les gens pique-niquer dans le pré, et puis hop, on tournait en 10 minutes les scènes parce qu'on était pile dans les bonnes lumières. Donc de tourner comme ça dans ces heures limites, tout ça, c'est un grand luxe, en fait, comme de tourner dans l'ordre du scénario, etc. À chaque fois qu'on essaye d'être un peu hors technique, hors logistique, c'est finalement, ça devient très luxueux.
Alors, Cédric Kahn, nous vous avons demandé à vous aussi de choisir un son qui vous a marqué en ce qui vous concerne. Voici ce que vous aviez envie d'entendre.
Sur le point d'achever un livre, il vous semble que celui-ci commence à se détacher de vous et qu'il respire déjà l'air de la liberté, comme les enfants dans la classe la veille des grandes vacances, ils sont distraits et bruyants et n'écoutent plus leur professeur. Je dirais même qu'au moment où vous écrivez les derniers paragraphes, le livre vous témoigne une certaine hostilité, dans sa hâte de se libérer de vous. Et il vous quitte. À peine avez-vous tracé les derniers mots. C'est fini, il n'a plus besoin de vous. Il vous a déjà oublié. Ce sont les lecteurs désormais qui le révéleront à lui-même. Vous éprouvez à ce moment-là un grand vide et le sentiment d'avoir été abandonné. Et aussi une sorte d'insatisfaction à cause de ce lien entre le livre et vous qui a été tranché trop vite. Cette insatisfaction et ce sentiment de quelque chose d'inaccompli vous poussent à écrire le livre suivant pour rétablir l'équilibre sans que vous y parveniez jamais.
Identification de ce son et sa signification, Cédric Kahn ?
Oui, et puis c'est sans fin ce qu'il raconte. Hein. Ça, c'est jusqu'à... Non, mais, enfin, tout le discours est extraordinaire, mais c'est un discours sur la création qui est incroyable. C'est le discours de Modiano au Nobel. Et c'est vrai que là, ce qu'il dit, c'est très... En plus, il dit avec des mots très simples une chose qui est assez indicible, quoi, qui est ce sentiment que l'œuvre vous dépasse, qu'elle existe dans le regard des autres, et qu'une fois que finalement on l'a donnée aux autres, on se sent encore plus orphelin et vide que quand on n'a rien fait, quoi. Et que pour remplacer ce vide, il faut recréer autre chose. Et souvent, je dis d'ailleurs, ça doit être vrai de toutes les formes de création, mais dans le cinéma, ce qui est dur, c'est qu'on passe de l'angoisse du vide à l'angoisse du plein, et donc en fait, on est tout le temps angoissé, quoi.
J'ai reçu un scénario auquel j'ai rien compris, mais c'est peut-être à cause de mon anglais, avec plein de terroristes partout.
Et je pense que c'est pas une bonne chose en fait.
Merci à nos invités. Cédric Kahn, Vie Sauvage sortira en DVD mercredi prochain sous le label France TV Distribution, même éditeur pour Les Combattants, Thomas Caillé, et le film est toujours à l'affiche. Je rappelle que vous êtes tous deux invités dans le cadre de la 20e édition des rendez-vous with French Cinema in New York à partir de demain. Et puis les mémoires d'Helmut Berger, complètement mégalomane, sont parues aux éditions Séguier. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Esta mañana, no sabía si ir a pillar heroína o calamares para guisar. No sabía si ir a Gijón a por droga o a lo de Carmen a por unos calamares.
Demain, ce sera une émission belle toute nue avec le metteur en scène Rodrigo Garcia et la danseuse Alice Roland. La désannonce, Elsa ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagane, Marou Farine, Aïssa Touendoy et Elsa Béranger. Journal de la culture Zoé Spez, chronique Jean-Marc Lalanne, à la prise de son Emmanuel Morzincan et Stéphane Poitvin, et à la réalisation Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille de rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Vous avez changé de nom, Marou Farine ?
Manou Farine.
Manou Farine, pardon.
Il est 19h53 minutes. Vous êtes sur France Culture. C'est bien. Et tout de suite, moi j'aime bien Marou Farine. Marou Fanine. Je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.